La séance des tirs au sort va bientôt débuter ici, au kiosque à pizza. Il dépose la boîte devant lui. Il recule de 3 pas. Il sort son téléphone. Il se rapproche du QR code. Il s'élance. Et c'est scanné. C'est scanné. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il gagne une voiture électrique!
Jusqu'au 14 juillet, rendez-vous dans votre kiosque à pizza pour tenter de gagner des pizzas, des consoles de jeux et même une voiture électrique! Voir conditions et règlements du jeu sur lekiosqueapizza.com. Pour votre santé, bougez plus.
Vous écoutez
RMC. RMC, le Mosca.
Zap. Alors, il y a une solution qu'on n'a pas évoquée après la blessure de Mathieu Jalibert pour l'Union Bordeaux-Bègles. Les solutions qu'on a évoquées hier, c'était Matteo Garcia et Zach Holmes. Mais ouais, il reste l'option Maxime Lucu, ouais, qui est numéro 9, qui n'a jamais joué numéro 10 à Bordeaux, qui jouait régulièrement à Biarritz.
Il jouait à Biarritz.
Oui, mais enfin, il est arrivé en 2019.
Mais alors, entre le 9 et le 10.
Ça fait 5 ans, hein.
Ça peut le faire.
Oui, mais.
Avec Kian Lesgourgues, demi de mêlée.
Ouais. Joueur confirmé.
Après moi, ça fait combien de temps qu'il n'a pas joué?
5 ans.
Ah non, il le mettra pas alors.
Ah ouais?
Non, ça fait trop longtemps. Moi aussi, j'ai
pas. Ils y réfléchissent.
Comme souvent fait au Stade Toulousain, ils mettent le petit Graou et Dupont. Si admettons il y a un souci entre Ramos ou si y a un Tamac qui est pas là.
Bon, un joueur en 10, pas mal.
Oui, non, mais parce que c'est quand même deux postes qui se ressemblent énormément. À part sur le jeu au pied, bien entendu. Mais c'est deux postes qui sont quand même similaires. Tu distribues le jeu, t'attaques la ligne. Dupont, tu le vois bien, quand il joue à l'ouverture, il a encore plus d'espace. Il a des espaces de partout. Un peu à gauche, un peu à droite. Il peut passer entre les centres, entre l'ouvreur. Il défend comme un âne. Quand t'es doué, demi de mêlée, ça le gêne pas. Après, faut gérer au pied. Le pied, c'est différent.
Il est bon au pied.
Maintenant,
le cul, non?
Oui, mais ton placement. Savoir quand tu, les temps forts, tout ça, c'est une gestion qui est assez particulière. S'il n'y a pas joué depuis longtemps.
Ouais. Même à une semaine d'entraînement à fond.
Je crois pas, non,
il nous fait croire que pour jouer au rugby, il faut être pesqué. Donc tout à l'heure, elle a dit il ne faut pas être pesqué pour être truc.
Non, oui, tu as raison.
Au rugby, il faut être pesqué.
Alors, pas tous les postes, Eric, mais à celui-là.
Mille ouvertures,
sur là, quand même, il faut être un peu pesqué quand même. Mais être habitué depuis gamin à y jouer, c'est des automatismes.
Option par retenu, Moscato.
La dernière fois, je me suis dit, quand on a fait ce débat la dernière fois, je me suis dit, il va avoir la tentation, peut-être, de mettre Lucu. Mais si tu me dis qu'il n'a jamais fait un match de championnat depuis 5 ans, à ce niveau-là.
C'est comme le vélo,
les montées défensives,
sur
la
position. Sur un barrage, c'est risqué,
Mais je sais pas, j'hésiterai, j'aurais quand même une certaine appréhension.
On zappe.
Surtout que le demi d'ouverture a fait un très gros match contre le Leinster, ou je sais pas
Garcia.
Pourquoi, en Coupe d'Europe.
Oui, alors, il a fait
un match après qui s'est complètement planté, mais il a été élu meilleur homme du match en marquant 12 essais contre un club anglais. Donc ça veut dire qu'il a des possibilités.
Contre les Saracens,
il va être tiraillé, je pense, entre les deux.
Et le match d'après, face au Harlequins, il s'est effondré. Il a pu jouer pendant 2 mois. Ouais. Yannick Brul a écarté.
Biarritz Olympique, Wilfried Templier, bonjour.
Salut tout le monde.
Le dernier.
Alors, le Biarritz Olympique attend une décision de la DNCG pour savoir s'il est maintenu en Pro D2 ou pas, Wilfried.
Ouais, l'enjeu c'est tout simplement le maintien du BO en Pro D2, soit la relégation à l'étage en dessous en national. Alors les nouveaux dirigeants représentés par Sean Egarty, qui ont récupéré le club, auprès de Jean-Baptiste Aldiger et Louis-Vincent Gave, ont rencontré mercredi dernier l'autorité de régulation du rugby. C'est la 2R, la RR, c'est le nouveau nom de la NACG, le gendarme financier.
Ah bon?
Et cette autorité, ouais, c'est nouveau, Vincent, se réunit tout à l'heure à 18h pour statuer. Les patrons du BO devaient immédiatement déposer 1 million d'euros sur les comptes du club, rien que pour boucler la saison qui vient de s'achever, plus une enveloppe d'au moins 2 millions d'euros de garantie par an pendant 3 ans pour un budget à hauteur de 9 millions l'an prochain. Alors après la rencontre de la semaine dernière, les dirigeants du BO se disaient confiants, mais la 2R doit valider le montage financier. On vous épargne les détails, entre fiducie, bail du stade d'Aguilera, nouvelle régie commerciale, ouais, qui est gérée par le camp de l'homme d'affaires limougeau Romain Détré, qui était un temps lui-même candidat au rachat du club. Bref, si tout va bien ce soir, le Biarritz Olympique aura le feu vert pour continuer sa route en Pro D2. Dans le cas contraire, la relégation serait prononcée. Alors, le club a le pouvoir aussi dans la foulée de faire appel, c'est ce qui est arrivé à Grenoble l'an dernier. De son côté, le Rouen Normandie Rugby, qui est 16e et dernier de la saison de Pro D2, se tient prêt avec l'espoir de
repêcher.
Effectivement, mais on n'en est pas là, vous imaginez, il peut y avoir appel, CNOSF et compagnie, mais voilà, il y a une décision et un coup près ce soir.
Ça sent pas très bon quand même.
Ça sent pas l'appel, ça sent le coup d'appel.
Parce que 1 million pour combler le trou, 2 millions pour s'engager, 3 fois.
Ouais, 3 fois 2. Donc ça fait
c'est quand même un sport de pauvre, ça.
Non, mais c'est
ils étaient confiants,
Biarritz, hein,
pour toi.
Biarritz avait des budgets quand même, t'as vu qu'ils sont tombés bien bas. Le problème, c'est très bien que Biarritz était géré par un mécène, et donc ce mécène n'est plus là. Il n'y a pas eu un effort de fait depuis 20 ans, 30 ans pour trouver une économie.
Je croyais que les nouveaux qui arrivaient, ils avaient un projet viable. Moi,
tente de réunir le maximum de partenaires, mais c'est
le problème. L'enthousiasme ne suffit pas. Tu le sais bien, dans les sports, on le voit bien même au foot. Tu vois, tu as des petits clubs. L'enthousiasme ne suffit pas. Si tu ne prends pas l'oseille, regarde si les problèmes qu'il y avait à la télé, tous les petits, pas les gros, ils s'en sortiront toujours. Mais les petits clubs, les clubs qui montent de deuxième division ou ceux qui sont en bas, ils n'ont pas la télé, ils ont 10 millions en personnel. À Brest, si tu enlèves la télé, ils ont 8 millions ou 10 millions. Donc tu comprends bien que pour eux, Biarritz, ils en sont à ce niveau-là maintenant. Il n'y a plus d'oseille. Si tu n'as pas un mec qui arrive avec quelques millions, et l'enthousiasme, ça suffit pas. Les mecs qui ont voulu reprendre, c'est sûrement des mecs bonnards. Mais quand ils jouaient à ce club, le problème, c'est qu'il faut des fortunes.
On en revient toujours au même point. Il n'y a pas de mécène à Bayonne.
Il n'y a pas de mécène.
À Bayonne, il n'y a pas de mécène.
Oui, mais t'as 20 000 tous les matchs.
Parce que t'as une multitude de partenaires qui ont investi à Bayonne. Et le Pays Basque n'est pas un gigantesque territoire.
Ah oui, mais il y a des
coups. Ouais, mais justement, ils sont tous à la Bayonne.
Oui, mais
Bayonne a pris l'avance.
Bayonne, il y a combien d'habitants? Il y a 60-80 000 habitants.
Et ce serait
tous les Basques se revendiquent.
Ce serait pas l'heure de la fusion.
C'est plus l'heure de la fusion. C'est l'heure de Bayonne.
C'est la fusion.
Non, mais après, ils préfèrent, je pense, végéter dans une petite division que fusionner les Biarros. Ça se respecte.
Mais l'intérêt, c'est qu'un jour Biarritz se rejoue contre Bayonne. Pas qu'ils soient ensemble, ça veut rien dire. Ces fusions-là, c'est que dalle. Ça veut rien. Ça rappellera de la fusion de Pau et d'Orthez. Orthez a disparu complètement. Qui se souvient d'Orthez de la Moutette?
Il a raison.
Et moi, parce qu'il fait.
J'ai vu les historiques, je rappelle.
Oui, mais les historiques. Parlez, mec de moins de 40 ans. Qui se souviennent d'Orthez. Orthez, nous, tout le monde le savait même. Moi, j'ai joué au rugby, je savais ce que c'était la Moutette. Oui. Demandez à un rugbyman actuellement s'il se souvient d'Orthez, la Moutette. Mais personne. Personne, le marché, où ça sentait le poulet. Moi, j'ai vu Tel Aviv avec Georges Fischer comme entraîneur. Ouais. Freddy Hufnagel, et voilà, Simon.
Ça, c'est la culture sportive.
Je vous en ai mis plein la figure.
C'est bizarre que
vous
n'avez pas dit
la rookie.
D'habitude, tu parles toujours de Mathieu Bissigny.
Et Mathieu Bissigny, oui.
Voilà. C'est l'alerte RMC. Ratez pas votre chance. Vous avez 5 minutes à partir de maintenant pour envoyer euros par SMS au 732-16 euros, E-U-R-O, pour gagner l'expérience RMC sur le premier match des Bleus à l'Euro. France-Autriche à Düsseldorf lundi prochain. Le vol, l'hôtel, la rencontre avec les équipes RMC avant le match et les deux places pour France-Autriche. Euros par SMS au 732-16. On va retourner à Rome. Les championnats d'Europe d'athlétisme, Aurélien Tiercin, rebonjour.
Rebonjour les amis.
Tout à l'heure, on faisait le point sur Kevin Mayer qui est quasiment qualifié maintenant pour les Jeux Olympiques de Paris. Il reste deux épreuves ce soir, mais deux épreuves a priori sur lesquelles c'est quasi impossible de faire un zéro pointé. Il s'est passé d'autres choses sur ce décathlon pour l'autre Français, notamment une scène surréaliste.
Oui, Mackensen Gletti qui lors du 110 mètres haies, donc c'est à 9h30, il faut être bien réveillé, et il a pas entendu le starter, du coup il a regardé autour de lui, tout le monde est parti, moi je suis en retard, donc il s'est mis en branle, et à la fin il fait un chrono de 15 secondes 30. Il était dans le coup pour une médaille, donc là un 15-30 c'est vraiment dramatique pour lui à ce moment là sauf que il dit qu'un des haut-parleurs ne fonctionnait pas bien, qu'il n'a pas entendu donc le starter à cause d'un problème technique. Une réclamation est posée et là FFA fait bien son boulot là-dessus, puisque la course est redonnée à Mackensen Gletti, donc il recourt tout seul, et en plus il va battre son record personnel en 13,88.
Tout seul.
Et grâce à ça, tout seul, en plus sur le couloir numéro 9, donc tout seul sur la droite de la piste, il va battre son record personnel. Non, c'est assez fort, et en plus à la perche, il a réalisé un bon parcours.
Comment
donc
il a fait à la perche?
Il est deuxième. À la perche, il a fait 4,85 mètres. 80, voilà.
Il avait oublié la perche, en plus, sans perche.
Non, en plus, il a fait comme Mayer. Il a failli faire un zéro pointé, il s'en est sorti. Ouais. À son tout premier essai, au troisième tentative.
Ça berge, mais il est arrivé à sauter 93 d'après toi.
Rapidement, Aurélien, est-ce qu'il y a encore des médailles ce soir? Hier, il y a eu un doublé sur 3000 steeples, Alexis Miellet et Djilali Bedrani. Ce sont des médailles qu'on n'attendait pas forcément. Pour l'instant, ça se passe très bien pour l'équipe de France. Ce soir, s'il se passe quoi?
Ouais, alors ce soir c'est quand même on est un petit peu moins positif. Il y a le triple saut tout de même, c'est peut-être là où on a le plus de chance. Il y a Benjamin Compaoré, un ancien champion d'Europe, mais qui dispute sa toute dernière compétition, donc il est pas vraiment dans le coup. Jean-Marc Ponviane, médaillé de bronze à Munich il y a 2 ans, peut recommencer et monter sur la boîte. Il y aura également Thomas Gaugois, ça c'est la principale chance française. Louise Maraval, une jeune coureuse de 400 haies, peut aussi monter sur le podium, mais il y a Femke Bol, la néerlandaise qui écrase tout, qui va s'imposer, devrait s'imposer sauf catastrophe. Mais Maraval, pourquoi pas aussi un podium? Et puis, on n'oublie pas Hélène Parisot sur le 200 mètres. Mais là aussi, ça sera compliqué de monter sur le podium.
Merci beaucoup, Aurélien. Ce sera suivant en direct sur RMC.